T'as tout résumé.
Il livre sur toi, quoi.
C'est sur nous. On appelle ça, en zoologie, l'espèce commensal. Tu sais, non, commensal, bah, tu vois, le petit...
Le commensal, il vit à côté.
Oui, il vit à côté, c'est vrai.
Et lui, il vit aux dépens de ce... Il vit aux dépens même.
Je suis allé par un hasard total le lendemain de l'entretien que j'ai eu avec Delavie. Et là, c'est hallucinant. Il y avait une exposition à la Maison européenne de la photographie sur Erwin Wurm. Alors, Erwin Wurm, c'est pour le hipster étudiant en art, la cathédrale à absolument visiter. Il faut absolument avoir Erwin Wurm. C'est connu comme le loup blanc. Alors, pour tous mes potes graphistes, ancien étudiant en école d'art, écalien lausannois ou tout autre trublion de ce genre, il voit tout à fait de quoi je parle. Erwin Wurm, c'est un Autrichien qui est né en 54 et qui est rentré dans l'art du game, de l'art contemporain, parce que le mec, à la base, il ne savait pas. Il a voulu peindre, il a voulu sculpter, puis on lui a tout de suite fait comprendre qu'il était mauvais. Alors, de cette frustration, il s'est inspiré des traditions de l'art conceptuel et de l'art minimal, et il a essayé de redéfinir du coup la définition de la sculpture. Il s'inscrit dans une réflexion autour de notions très connues en sculpture, qui sont le volume, la trois dimensions, le rapport à l'espace, l'enveloppe. Et tout. Je pourrais très bien faire une vidéo en apocadrille qui explose Erwin Wurm. Je ne vais pas le faire. Par contre, vous laissez la liberté de juger vous personnellement. Moi, personnellement, c'est exactement l'opposé de ce que je fais dans mon travail et de tout ce que je vais développer avec Fred plus tard. Donc, Wurm, c'est simple. Alors, si je dois résumer, premier cartel de l'expo, on a tout de suite la baffe du Caligula dans la gueule. Donc, il va s'opposer à la théorie d'Adorno qui domine dans le discours de l'art contemporain. Il réfute en particulier l'idée du philosophe allemand selon laquelle l'art est une chose noble et sacrée. Attention, parce que là, on a un très grand chapitre qui est super intéressant. Donc, c'est un tunnel dans un tunnel dans un tunnel. Théodore Adorno est le sujet que tu ne peux pas louper en histoire de l'art. C'est un peu, il y a les gros poncifs, il y a Panofsky, il y a Gombrich, il y en a plein, mais lui, il est assez bon, surtout en philosophie de l'art. C'est un des représentants de l'école de Francfort. Donc, l'école de Francfort, je vous conseille d'aller un peu checker. Il y a à boire et à manger. Donc, Adorno, c'est quand même le mec qui a forgé le concept de l'industrie culturelle. Donc, déjà là, le mec, il pose le game avec sa grande marotte qui est la culture traditionnelle est opposée à la civilisation moderne, froide et mécanique, mais défend un modernisme esthétique ennemi de la massification pratiquée par les avant-gardes. Donc, en gros, il va défendre l'art moderne, mais déféquer abondamment sur l'art contemporain, notamment cet art qui s'oppose au noble et au sacré. Alors, là, je pourrais vous faire des tunnels aussi sinueux et intemporels que ceux de la série Dark. Hein. Si je dois résumer, on pourrait imaginer l'art comme quelque chose qui, d'un premier temps, d'une manière intuitive pour la plupart des gens, le quidam, est quelque chose qui représente le noble et le sacré. L'art, par définition, c'est magnifier. Quand vous avez une cathédrale, une statue grecque ou un tableau d'un paysage, vous êtes là, putain, c'est de l'art. Ok. Après, on peut aller plus loin. On peut dire, ok, c'est du noble et du sacré, mais ça peut aussi être de l'art critique. C'est-à-dire, critique pourquoi ? Parce qu'en référence justement à la première catégorie, en s'opposant au noble et au sacré, on va critiquer ce qui justement s'oppose au noble et au sacré. Donc il y a toujours un référent à la première catégorie. Je fais de l'art critique, mais sous-entendu parce qu'on est en train de passer à côté du sacré ou on est en train de faire quelque chose de très mauvais. Je vais vous montrer maintenant, effectivement, il y a plein d'exemples, dont un que j'aime, c'est Bruegel avec sa tour de Babel. Babel, c'est mon sujet, c'est mon dada. Babel chez Bruegel, ce qui est génial, c'est que effectivement, il va illustrer le sacré, il va illustrer le thème de l'Ancien Testament de la Tour de Babel, thème foisonnant pour ce qu'il en est, et il va subtilement, pour critiquer l'Inquisition espagnole qui exècre les Flamands, il va présenter la Tour de Babel tout en prenant le modèle du ziggourat mésopotamien, mais en le faisant ressembler à une juxtaposition de colisées romains les uns par-dessus les autres. Colisées romains, pourquoi ? Parce que Rome, Vatican. Donc, je te glisse une subtile saucisse en critiquant les cathos par une jolie représentation de Rome et d'un Colisée. Donc, ça, c'est pas con du tout. Ça, c'est subtil. Ça, c'est typique les Nordiques. Voilà. Ça, c'est un exemple d'art sacré qui, en même temps, est critique. Dans l'histoire de l'art, il y a bien sûr une pléthore de ces exemples d'art critique. Alors, 17e siècle, Rubens, les horreurs de la guerre. 19e siècle, Goya, le 3 mai 1808 à Madrid. Et puis pour le XXe siècle, la guerre de Todix, Guernica pour Picasso, enfin bref. Donc voilà, on est d'accord, on est toujours dans ce schéma sacré, noble, critique. Mais vous allez vite comprendre que si on, au final on dit oui, mais on va pas parler du noble et du sacré, on va parler de ce qu'on critique, ben, vous pensez bien que le pas est vite fait à dire ouais, mais pourquoi pas critiquer la critique ? Et puis pourquoi pas ne pas faire du tout de noble et de sacré ? Pourquoi pas s'opposer pour s'opposer ? Et puis pourquoi pas faire n'importe quoi ? Au final, là, je vous fais un méga résumé du passage de l'art moderne à l'art contemporain. Alors, pour bien que vous compreniez le modèle ou le paradigme des galeristes à l'heure actuelle. Bourne, voilà, tu rentres dans l'expo, on se fout des pommes dans la gueule. C'est génial ! Il a rien à présenter, bah, il prend son appareil, fait de l'argentique, hein, parce que monsieur fait de l'argentique, en tout cas, c'était l'époque, donc voilà, et il te balance que des pièces vides. Puis voilà, c'est le concept. Je fais un collage et je finis même pas le bout du dernier rectangle parce que tu vois, c'est vide dans le vide. J'expose du vide et ça cartonne. Le mec, il est là, il sait pas quoi foutre. Il a un autre projet. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans mes chambres d'hôtel, je tourne en rond. Mais je vais prendre tous les objets que j'ai dans la chambre d'hôtel. J'en fais un espèce de totem de débile et puis je le présente. Et puis c'est génial. Et puis voilà. Alors après, le mec, il a eu son concept de la One Minute Sculpture. Alors je vous fais un méga résumé, mais en gros, c'est de faire des espèces de trucs complètement chelous en mettant des habits et puis de faire des espèces de sculptures humaines vivantes mais figées parce que la photo fige le mouvement, donc blablabla. Voilà un mec qui ne sait pas utiliser un burin et de l'épanelage en sculpture. Du coup, il fait des trucs avec des fringues, il s'amuse, voilà, ça cartonne, il fait des grands formats de ça, et puis voilà. Demander à des gens de se faire des câlins avec des légumes, de foutre des trucs sur la gueule des gens, de mettre des trucs complètement débiles en équilibre. Un des trucs les plus connus, c'est d'aller demander à des gens « Hey les gars, vous voulez être une étagère ?» Alors vous vous foutez des livres comme vous pouvez, puis moi je vous prends en photo. Et puis tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde veut aller chez Wurm, tout le monde veut faire la photo. Moi je mets les livres comme ça, moi je mets les livres comme ça. Bref, je peux vous en montrer encore d'autres. Genre, je vais filmer un mec qui essaye de tenir un équilibre sur une planche. Il n'arrivera pas, donc c'est ça. Il se trouve du cul, essaie de faire un lien avec le mythe de Sisyphe, en disant « Eh, c'est génial !» Le mec, il n'arrive pas, puis il essaye toujours, et c'est la perpétuelle quête de l'équilibre et tout. C'est de l'empilage de mouche. Il faut se l'avouer, il y a parfois des trucs très finaux. Quand il délègue, parce que maintenant, monsieur est très connu, parce que maintenant, monsieur a les moyens, et il y a plein de gens qui bossent pour lui, il fait des trucs pas mal. Il déforme les maisons, il travaille, il y a toute une série. Mais, si vous voulez, cet univers, c'est de l'art, de la déconne, avant tout. Paradoxe, il veut pas faire rire. Bon, alors à un moment, c'est une dissonance cognitive parmi tant d'autres, chez les gauchistes, mais il y a quand même, à un moment, des points dans la gueule qui se perdent. Parce que moi, si c'est un délire d'étudiant en histoire de l'art, et puis juste le délire bon enfant de la déconne et de la farce, il n'y a pas de problème. Après, quand ça commence à valoir beaucoup d'argent, là, honnêtement, les mecs, je vous dis, il y a un truc qui se passe. Et ma digression et mon tunnel préparatoire à l'entretien que je vais avoir avec Delavier, où je vais parler dessin. Parce que avant tout, et ça je vous l'ai pas dit, mais Delavier, j'ai énormément de plaisir. C'est un chapitre que je fais dans l'anatomie artistique que j'enseigne au lycée. C'est de effectivement mise au carreau, copie. On copie les grands maîtres. Et pour moi, Delavier en anatomie, ses dessins d'anatomie, quand vous voyez les tailles de ses originaux sur des feuilles A5. Sur calque ou crayon, les niveaux, les valeurs de gris qu'il arrive à donner pour faire ses écorchés, tout en les attribuant à des positions de fitness ou de gainage ou d'exercice de boxe. Enfin, c'est du génie. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir, et les élèves également, à pouvoir utiliser la technique des trois crayons, de dessiner la lumière sur ce volume, parce qu'on apprend le volume avec le corps humain. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de Teddy, où j'expliquais les théories de Jean Piaget, comme quoi l'enfant reproduit l'histoire de l'art en dessinant. C'est une des premières interventions que j'avais fait chez Teddy, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, Piaget avait cette théorie, que pour comprendre le volume, une boîte par exemple, quand un enfant regarde une maman qui met un objet dans une boîte, l'enfant met sa main dans la bouche. C'est-à-dire que son corps devient la boîte qu'il a observée en comprenant que « Ah, maman, elle a fait disparaître un objet, les biscuits par exemple, et l'enfant comprend qu'en mettant sa main dans la bouche, lui-même est une boîte, il comprend le concept de boîte. » Eh bien, en dessin, t'as 20 piges, t'as envie de dessiner, eh bien, tu dessines un corps nu. Delavier va plus loin, il va dessiner ce qui est sous la peau, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la muscu.
Admet que ça sert à rien, franchement. Moi, je te raserais tout ça, je ferais une caserne.
Ouais, le gladiateur. Écoute, non, il y a en 6 mois, j'ai...
Diachronie, puis non séquentielle, parce que c'est pas une image qui fait... Tu vois, la BD, c'est de la diachronie séquentielle. Mmh. Tandis que là, c'est une diachronie non séquentielle. C'est un des termes un peu barbare à la con d'un télo qui analyse la BD, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on fait au final. Parce que la BD, elle est intuitive. Un gamin, il va faire un dessin, il fait ça. Il fait tout plein d'éléments à différentes temporalités à un même instant. Ouais, ça, c'est papa qui a fait ça. Non. Donc là, dans le cinéma, on le comprendrait direct, par contre. Donc c'est ça la force de la BD.
Il est bon, lui.
Ah, lui, il est bon. Je te filerai son Instagram, mais lui, il est bon.
Ben, moi, je trouve qu'il y a un mec qui a été difficilement dépassé, c'est Liberator.
Ah, t'as des bons référents, Fred.
Ah, bah, c'est mon préféré. Et je montrais ça à mon maquettiste, qui s'est passé une BD, tout ça. Mmh. Et là, il dit, mais attends, c'est le meilleur. Ah oui, il n'a pas été dépassé. Et c'est, tiens, justement...
Moi, ici, à gauche, on pourrait imaginer un chevalier avec une épée qui... Puis ça, une diligence, une
charrette. Ah oui, tu leur fais chier. Des mecs, ils ont un niveau. Et c'est pareil pour le cinéma. Moi, je regardais surtout toute une vidéo. T'as les meilleurs...
Et puis ça, c'est chanté. Et c'est ça, sa performance.
Je déteste. Ça, j'ai envie de montrer tellement que c'est horrible.
Rémi Lacroix.
Ne vous faites pas dépigmenter l'anus, surtout. On aime.
On est foutus.
Restez naturel.
Mais non,
restez naturel, on vous aime comme vous êtes.
Tu sais que...
On les seins silicone, les dépigmentations d'anus, on n'en veut pas.
Mais quand tu as aimé, tu es riche. Tu es riche parce que tu as connu le sens profond de l'existence, c'est-à-dire l'amour. Même si après les êtres que tu as aimés sont partis, pour de multiples raisons, tu restes rempli de cette force, de cette beauté qui t'accompagnera jusqu'au dernier jour de ton existence.
C'est beau.
C'était beau ?
C'était parfait, avec ce soleil, avec ce contre-jour, il y avait moyen de faire un truc philosophique là.
C'était minable.
C'est très bien pour terminer la vidéo. On finit avec une note kitschos là.